Bonsoir, vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel et c'est maintenant l'heure des oreilles loin du front.
Alors cette semaine, on va pas faire dans le dossier du jour, le dossier principal, on va faire un peu dans le kaléidoscope, dans l'auberge espagnole, je sais pas, dans un truc un peu médié avec plein de sujets différents. Alors Céline, je crois que toi, t'as été en reportage.
Ouais, exactement, je suis allée à la manif qui avait lieu lundi à l'heure du déjeuner devant le palais de justice pour soutenir le planning familial qui a porté plainte contre Xavier Dor, le président de l'association SOS Tout Petit. Voilà, qui a fait irruption dans les locaux du planning familial à Paris en juin. Et voilà, donc je suis allée à ce rassemblement et je vous propose d'écouter un petit reportage là-dessus. Et toi, Juliette ?
Alors moi, je voulais parler du mouvement Idle No More, qui est un mouvement, alors ce qu'on appelle au Canada des membres des Premières Nations, qui est contre une loi de Stephen Harper et pour la défense de leurs droits. Et donc on ira dans les rues de Montréal avec des membres de la coopérative des médias libres de Montréal. Et puis, je crois que toi aussi, tu as peut-être une petite chronique à l'annexe, non ?
Ouais, ouais.
Et puis, ouais, après, on aura des chroniques un peu peut-être surprises qui seront un peu culturelles et musicales, voire tout à fait autres. Et puis, il y aura comme d'hab, un peu d'agenda, parce que bon, ça fait du bien. Et il faut un peu militer et sortir des studios.
Cutting feet of one man.
C'était Anthony Joseph et The Spasm Band. Vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel et vous écoutez Les Oreilles Loin du Front.
Et alors maintenant, je vous propose qu'on écoute un reportage d'un rassemblement qui a eu lieu lundi, en fait, à l'heure du déjeuner, puisque le planning familial et d'autres associations féministes avaient appelé à un rassemblement parce que devait s'ouvrir lundi, en fait, le procès de Xavier Dore, qui est donc le président de l'association SOS Tout Petit, qui est un groupuscule lié à l'extrême droite, de gens intégristes en fait, qui sont contre l'avortement, qui avant l'instauration du délit d'entrave en 1993 allaient s'enchaîner aux tables d'opération pour empêcher les opérations d'avortement. Et voilà, Xavier Dore a fait irruption dans les locaux du planning familial en juin et le planning a porté plainte et appelé donc à un rassemblement de soutien lundi à l'heure du déjeuner, donc c'était à Paris devant le palais de justice. Lundi 21 janvier devait s'ouvrir le procès de Xavier Dore, le président de l'association SOS Tout Petit, une association catholique intégriste qui s'oppose à l'avortement. Le planning familial 75 a porté plainte contre Xavier Dore pour entrave à l'interruption de grossesse par pression, menace ou intimidation du personnel, d'une patiente ou de son entourage. Xavier Dore a pénétré dans les locaux du planning le 25 juin dernier, en voulant y dire des prières. Le lendemain, il a pris à partie et agressé une femme qui se rendait au planning familial. Le délit d'entrave a été instauré en 1993 en réponse au harcèlement constant des milieux intégristes contre l'avortement. Depuis cette date, le délit d'entrave est prévu dans le Code de santé publique à l'article L2223-2 qui prévoit une peine de 2 ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende contre le fait d'empêcher ou de tenter d'empêcher une interruption de grossesse ou les actes qui lui sont préalables. La loi dispose que cette entrave a lieu, soit en perturbant de quelque manière que ce soit l'accès aux établissements de santé, aux centres de santé ou aux centres de planification ou d'éducation familiale, la libre circulation des personnes à l'intérieur de ces établissements ou les conditions de travail des personnels médicaux et non médicaux. soit en exerçant des pressions morales et psychologiques, des menaces ou tout acte d'intimidation à l'encontre des personnels médicaux et non médicaux travaillant dans ces établissements, des femmes venues y subir une interruption volontaire de grossesse ou de l'entourage de ces dernières. Xavier Dor, qui est âgé de 83 ans, a déclaré lundi au quotidien Métro : J'ai été condamné à plusieurs milliers de francs d'amende, j'ai fait de la prison. Si je suis condamné aujourd'hui, je ferai appel. Avec les militants de mon association, nous avons manifesté devant l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul, devant le centre IVG Tenon et ailleurs, et nous continuerons jusqu'à ce que l'avortement redevienne illégal. Il faut que cette culture de mort disparaisse. Le Planning Familial National, l'Association Nationale des Centres d'Interruption Volontaire de Grossesse et de Contraception, l'ANSIC, et la Coordination des Associations pour le Droit à l'Avortement et à la Contraception, la CADAC, se sont constitués partie civile à ce procès et appelaient à un rassemblement de soutien au planning familial 75 lundi.
Il y en a assez, c'est comme un autre facho qui menace sans arrêt le droit à l'IVG.
Héloïse est membre du planning familial 75.
On est rassemblés aujourd'hui pour dénoncer l'entrave à l'IVG par Xavier Dor dans les locaux de notre planning le 25 et 26 juin 2012. En fait, il s'est ramené avec un de ses collègues pour faire des prières dans la salle d'attente en face des femmes qui étaient en demande d'avortement. Et ça s'est renouvelé deux fois, en fait. On considère que c'est un délit d'entrave puisqu'il a voulu prier. Il s'est mis à exercer une espèce de pression morale face à elle. Et le lendemain, il est revenu physiquement. En fait, jusqu'à présent, lui et ses sbires étaient... au collectif Tenon, en face de Tenon, mais ils étaient en accord avec la préfecture. Là, ils sont vraiment venus entraver l'activité du planning. Ça nous a empêchés de travailler pendant un certain temps. Il y a deux entités qui ont porté plainte, le planning familial avec la présidente et une des femmes qui a été agressée le deuxième jour, à qui il a attrapé les mains au moment où elle rentrait au planning. Et pour la dissuader d'avorter, il lui a donné une médaille de la Vierge Marie et des chaussons minuscules. Visiblement faite pour un fœtus, même pas un bébé en fait.
Xavier Dor, dehors ! Xavier Dor, dehors ! Xavier Dor, dehors !
Martine fait partie de l'Association nationale du planning familial.
Le planning national s'est porté partie civile dans le procès qui oppose le planning de Paris à Xavier Dor pour entrave à l'interruption volontaire de grossesse. Pourquoi on est là ? Parce qu'on pense qu'il faut absolument marquer le coup. C'est-à-dire que malgré le délit d'entrave qui a été voté en 93, les oppositions au droit des femmes à disposer de leur corps et à l'accès à l'IVG se font de manière régulière et souvent sournoise. Donc là, on a un fait avéré et il faut absolument qu'on puisse porter en justice cette action. Chaque fois qu'on peut, on porte plainte.
Ah Xavier, si ta mère avait pris la pilule, on ne serait pas là.
Marie dirige l'association FIT, une femme, un toit, qui gère un centre d'hébergement et de réinsertion sociale pour des jeunes femmes victimes de violences qui ont entre 18 et 25 ans.
Je suis une héritière des combats de mes aînés, puisque je n'ai pas, malheureusement, été dans des années où on était très dynamique là-dessus, les années 80. Et là, nous, on se rend compte qu'aujourd'hui, les jeunes femmes qu'on accueille sont de plus en plus souvent confrontées à des médecins qui leur font écouter le cœur du bébé alors qu'elles viennent pour avorter, qu'il y a une pression sociale qui est vraiment importante. Et donc aujourd'hui, on est là parce que pour soutenir le planning familial, évidemment, et pour dénoncer les anti-IVG, tout simplement.
Il y en a assez, c'est comme un autre macho qui menace sans arrêt.
Hélène n'est pas membre d'une association, mais elle a tenu à venir soutenir le planning familial aujourd'hui.
Pour des sujets comme ça, je pense que c'est important d'être viscéral justement, parce qu'on touche, on s'occupe de notre cul, on s'occupe de notre... Enfin voilà quoi, il y a des gens qui se mêlent de ce qui ne regarde pas quoi, voilà.
Cécile est coprésidente d'ACT UP Paris.
ACT UP est solidaire du planning familial dans sa démarche. SOS tout petit en général, Xavier Dor en particulier, sont des ennemis d'ACT UP à divers titres, notamment parce qu'ils sont contre la liberté de chacun et de chacune à disposer de son corps. Ce qu'on revendique à ACT UP Paris, qu'il s'agisse de la liberté d'avorter ou de la liberté de se prostituer, tout en ayant des garanties quant à la santé, quant à notre sécurité. Et par ailleurs, SOS Tout Petit est un groupuscule homophobe et opposé à l'égalité pour toutes en termes de mariage et de filiation, comme ils l'ont fait savoir très récemment en face de Tenon. Depuis le mois de septembre 2011, si je ne m'abuse, ils font régulièrement des prières et des des lectures de rosaires dans l'hôpital Tenon, ce qui est perturbant pour les usagères qui viennent pour faire des interruptions volontaires de grossesse. Et de toute façon, leur fer de lance, c'est un groupuscule sexiste, raciste, homophobe. Leur fer de lance, c'est de s'opposer à la liberté de chacune à disposer de son corps, au droit à l'avortement. Ça fait je sais pas combien d'années qu'ils nous emmerdent avec ça. En sachant par ailleurs qu'on est également étonné que des lectures de rosaires, alors qu'on nous sert de la laïcité à toutes les sauces, que des lectures de rosaires soit possible devant Tenon et soit pas réprimé par exemple comme les prières musulmanes de la Goutte d'Or. Donc ça fait encore état d'un deux poids deux mesures. Ces gens sont tolérés depuis bien trop longtemps et ces gens sont dangereux. Ils sont affiliés aussi à des groupuscules violents d'extrême droite, les mêmes qui sont dans les manifs homophobes et qui rêvent de casser du PD. Donc à ce titre-là, on a ACT UP Paris à toute sa place et évidemment qu'on soutient le mouvement national du planning familial avec lequel on a beaucoup de positions communes, notamment sur la prostitution par exemple. Au début de ce mouvement, il y a eu plein de contre-manifestations auxquelles ACT UP et ACT UP participaient. Nous, on a été interdits de présence, enfin on ne peut plus se confronter à SOS Tout Petit. On est tankés devant Tenon, eux ils ont tout le métro Pelleport pour déballer leurs images salaces, pour balancer des horreurs homophobes et sexistes. Ça fait plus d'un an que ça dure. Donc ces manifestations, qu'elles soient soit interdites, pourquoi pas, soit au moins déplacées, pas devant un centre d'intervention IVG. Et Tenon, c'est un haut lieu symbolique, le centre IVG avait fermé. C'est grâce à la mobilisation des salariés, des féministes que le centre IVG a pu rouvrir. Ils savent très bien ce qu'ils font. Où ils vont.
Avec le Black et la loi Veil, les femmes ont obtenu le droit de pouvoir avorter, le droit de pouvoir avorter. Maintenant le persil c'est de la salade et les aiguilles du tricotage, maintenant c'est leur liberté, maintenant c'est leur liberté. Avoir un môme si je veux, quand je veux, le droit de choisir son IVG dans les hostos de proximité, c'est notre droit et c'est la loi. L'avortement on l'a gagné, pas de morale sur le dos des femmes, pas de morale sur le dos des femmes.
Clara est membre de la Marche mondiale des femmes et du groupe jeune de la Marche mondiale des femmes.
En fait, ce qu'on voit, c'est que le droit à l'avortement en Europe, il est attaqué sous plein de motifs en ce moment. Alors, il y a les fachos, donc toute l'idéologie pro-life, religieuse, etc. Mais il y a aussi des prétextes économiques qui sont donnés, donc toute l'idéologie néolibérale qui consiste à dire l'avortement, ça coûte trop cher, donc on ne va pas rembourser. Évidemment, les femmes les plus pauvres ne pourront pas avorter ou ce sera vraiment difficile pour elles. On a aussi des arguments nationalistes qui sont donnés. Alors par exemple en Turquie, l'avortement était vraiment attaqué ces derniers mois. Le gouvernement a voulu limiter l'avortement sous délai de 4 semaines, ce qui est tellement court que en gros les femmes ne peuvent pas y recourir. Un des arguments qui est donné, c'est nationaliste. C'est il faut peupler la Turquie de Turcs et donc il faut que les femmes turques arrêtent d'avorter et fassent des enfants, quoi. C'est aussi une idéologie nataliste qu'on retrouve en France. Hein. En France, c'est surtout la réorganisation de l'hôpital qui, sous différents prétextes détournés, en fait, fait fermer les centres IVG et c'est toute la santé des femmes qui est attaquée, quoi.
Et puis voilà, des religieux, plutôt de gens moyenâgeux, nous refont le coup de l'ordre moral.
Nous refont le coup de l'ordre moral.
Pas de rosaire sur nos ovaires, les chapelets et la calotte. Retournez dans votre tabernacle. La loi Bachelot et sa sainteté, duplicité, complicité. Faut l'abroger, duplicité, complicité. On veut des sous pour l'hôpital, y en a plein les poches des banquiers.
Y en a plein les poches des banquiers.
Faut leur piquer.
On lâche rien.
Ximena vient de Galice.
En 2010, aprobamos una ley de plazos que permite el aborto libre hasta las 14 semanas.
En 2010, il y a eu une loi qui est passée qui a autorisé l'avortement sous 14 semaines.
Hasta las 22 cuando hay un problema grave para el feto o la madre.
Ou jusqu'à 22 semaines s'il y a un problème grave du fœtus ou de la femme.
Todo esto con dos condiciones. Primero, se informa a la madre sobre ayudas a la mujer embarazada y se pide 3 días desde que comunica que quiere hacer un aborto hasta que lo puede hacer. Tiene que pensar 3 días.
Il y a forcément des explications qui sont données sur comment on aide les femmes enceintes. Et la deuxième, c'est une femme qui veut avorter, elle est obligée de prendre 3 jours pour réfléchir. Donc elle ne peut pas arriver, venir et avorter directement.
Ahora el nuevo gobierno amenaza con volver a ilegalizar el derecho al aborto.
Et donc le nouveau gouvernement a menacé de rendre de nouveau l'avortement illégal. Donc c'est au niveau de l'Espagne et pour l'instant c'est juste des menaces qui ont été proférées par le gouvernement.
Nina est venue de Pologne pour participer à la semaine de réflexion sur l'avortement organisée par le groupe jeune de la Marche mondiale des femmes.
C'est une situation très difficile. En 1993, nous avons eu une loi appelée la loi de la protection de la vie conçue. Et cette loi a interdit l'avortement en Pologne, sauf trois les cas légaux, c'est-à-dire le cas d'un acte sexuel criminel, c'est-à-dire viol, inceste, acte avec une mineure, et le cas de malformation grave de fœtus, ou bien le cas du danger pour la vie ou la santé de la femme. Mais il faut tenir compte que du moment que l'IVG a été interdit, et même les cas légaux de l'avortement ne sont plus observés et respectés. Et alors les femmes, même comme par exemple Alicia Tichonks, que peut-être certains ont entendu parler d'elle, une jeune femme avec un grave, une maladie visuelle pour qui la grossesse aurait pu aggraver sa situation. Donc elle était dans une situation légale pour l'avortement et l'avortement lui a été refusé. À l'époque, elle a pu déposer plainte au tribunal de Strasbourg et elle a emporté le cas. Mais malheureusement, il faut dire que depuis, la cour de Strasbourg a changé un tout petit peu. Et c'est de plus en plus difficile.
Et là, du coup, quelle est la situation en Pologne actuellement ?
Actuellement, en Pologne, c'est comme j'ai dit,
c'est
les
toujours
lois,
la même situation que 93.
Oui, c'est toujours la même situation et toutes les tentatives qui vont sont plutôt dans le sens de limiter encore plus. Nous avons un film qui montre, réalisé par des femmes, qui s'appelle L'état souterrain de femmes, où les jeunes femmes montrent comment on réalise en Pologne l'avortement illégal. Comment
clandestin.
Clandestin, l'état clandestin, c'est ça, l'état clandestin de femmes, et comment c'est vraiment dangereux pour la vie, pour la santé psychique aussi, et des jeunes femmes qui sont obligées d'avorter clandestinement, ou bien qui sont obligées de faire du tourisme abortif. Et c'est vraiment très, très, très dommage. Les femmes polonaises ont pu profiter durant 37 ans de l'accès libre à l'avortement. Et à ce moment-là, c'était des étrangères qui venaient chez nous avorter. Maintenant, c'est juste l'inverse. Pour conclure, que rien n'est acquis une fois pour toutes et que vraiment, il faut être très vigilant et vraiment, il faut se battre pour nos droits reproductifs et autres.
On lâche rien ! 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 Waouh ! On lâche rien !
Voilà, ça c'était lundi à l'heure du déjeuner devant le palais de justice à Paris. Et alors finalement, en fait, le procès de Xavier Dor a été reporté au 26 juin. Donc, les associations féministes appellent à une nouvelle mobilisation le 26 juin. Et je crois que le procès a été reporté en fait parce que le tribunal a jugé qu'il y avait trop de monde et trop d'agitation. Enfin, bref. Mais bon, la nouvelle date, c'est le 26 juin. Et sur l'avortement, parce que Clara disait dans le reportage qu'il y a une semaine de réflexion avec des féministes européennes sur l'avortement en ce moment, il y a une réunion demain au lieu dit, 6 rue Sorbier, entre, alors je crois que c'est 18h30, 22h, ou quelque chose comme ça, sur l'avortement en Europe. Voilà. Voilà, c'est ça.
En tout cas, on suivra la suite du procès de Xavier Dor. Ce sera sûrement donc fin juin et on sera là avec notre micro.
is for everybody.
Vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel et vous écoutez Les Oreilles Loin du Front. Et là, tout de suite, c'était Lynn Collins, You Can't Love Me If You Don't Respect Me.
Bah dis donc, si on ne peut pas aimer, si on ne respecte pas, là je crois que bah, on va aller au Canada, on va parler d'un mouvement et ce titre pourrait tout à fait être lié à ça, puisqu'on va parler du mouvement Idle No More. Alors toi qui parles anglais, Céline, Idle
paresseux, fainéant.
Voilà, je ne serai plus paresseux, fainéant, passif, ou apathique.
En fait, passif,
apathique, voilà. Ouais. L'apathie, c'est fini. Et c'est un peu le mouvement qui agite en ce moment le Canada, Canada anglophone et francophone. C'est un mouvement qui est né au mois d'octobre dernier et c'est un mouvement essentiellement... alors, on appelle au Canada les Premières Nations, donc c'est un mouvement des autochtones, comme on dit là-bas. Et alors, c'est né... en fait, c'est un mouvement qui est parti du Saskatchewan, je vais y arriver. D'ailleurs, c'est une province qui a un nom amérindien. Et c'est quatre femmes qui ont commencé à mettre à mal, et en tout cas à se mobiliser contre des nouvelles lois, qui sont alors des lois qui ont été créées par Stephen Harper, qui sont des lois sur l'emploi et la croissance, mais des lois qui sont sur l'emploi et la croissance qui touchent essentiellement des territoires indiens, que ce soit des réserves ou alors les territoires du Grand Nord. Il y a le plan Nord au Québec, mais il y a aussi énormément de projets dans le Nunavut et dans le Nunavik, qui est la partie québécoise du territoire inuit, puisque là on va parler de militants et de luttes qui touchent donc de nombreux peuples des Premières Nations. Et alors c'est une loi en fait qui, pour la croissance et l'emploi des populations, j'allais dire blanche, en tout cas canadienne non native, va toucher les territoires des Indiens du Canada. Et donc, en particulier, tout ce qui est matières premières. Alors déjà, on a mis d'énormes barrages. On a fait une émission il y a quelques semaines sur les mines. On a fait des mines un peu partout dans le Grand Nord canadien. Et cette loi va changer, en fait, va modifier la loi qu'il y a aujourd'hui sur les Indiens et la loi de la protection des eaux navigables. Et donc, les Indiens et de nombreux, on va dire, métis, les Inuits, les Autochtones sont contre cette loi. Et donc, il y a quatre femmes qui sont en grève de la faim depuis le mois d'octobre. Mais il y a eu aussi des mouvements avec des manifestations un peu partout au Canada, c'est-à-dire de Vancouver, grosso modo, jusqu'à la Nouvelle-Écosse, en passant par le Grand Nord et par Toronto, Ottawa et Montréal. Et donc, il faut rappeler quand même que, au Canada, il y a quand même près d'1 million de personnes qui se considèrent comme autochtones quand ils cochent sur le recensement. Donc, ça fait quand même beaucoup de monde. Et la majorité de ces gens vivent dans des réserves. Et ce qu'il faut dire, c'est qu'ils vivent dans des conditions de pauvreté tout à fait étonnantes par rapport à la situation globale du Canada. C'est aussi les endroits où il y a un taux de suicide le plus élevé. C'est l'endroit où il y a un nombre de meurtres de femmes qui est tout à fait énorme, sans compter qu'il y a une pénurie d'eau potable dans la plupart des réserves. Il y a aussi énormément de sociétés, de compagnies minières et de tout ce qui est qui exploite les matières premières canadiennes, qui volent en tout cas ou qui exploitent d'une façon irraisonnée les matières premières de ces territoires sans rétribuer les Indiens. Et donc ils sont en mouvement, ils sont en grève. Et alors il y avait des manifs, il y avait un grand jour de manifs qui était le 16 janvier dernier. Alors nous, on n'était pas allés au Canada parce que les ressources de Fréquence Paris Pluriel ne nous permettent pas d'aller directement au Canada, mais on a des amis qui sont montréalais et qui ont en particulier qui travaillent pour une coopérative de médias libres à Montréal et qui font du reportage. Et donc ils étaient dans la rue le 16 janvier dernier lors de la manifestation du mouvement Idle No More. Et alors, ils étaient avec le contingent anticolonialiste du mouvement Idle No More, sachant que dans ce mouvement, il y a énormément de groupes différents, puisqu'il y a aussi tous les groupes et tous les chefs, parce que là, je n'ai pas parlé des chefs qui étaient des chefs de différentes ethnies qui sont en lutte, mais les Inuits n'ont pas forcément les mêmes revendications que les Mohawks, et c'est assez complexe comme situation. Mais alors, pour essayer de comprendre, donc on est dans la rue à Montréal, et alors, si le monsieur, il dit allô au départ, c'est pour dire bonjour.
Alors, allô, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qu'on fait ici? Bonjour, Kwe. En fait, moi, je suis un peu programmé Nuts, puis on est ici pour parler de l'idée de faire une lutte anticolonialiste en même temps que la lutte Idol No More. Donc, c'est pour ça qu'on est ici.
Pourquoi faire une lutte anticolonialiste en même temps qu'Idol No More?
Parce que Idol No More, ça vient d'un mouvement de 4 femmes qui ont décidé de partir une lutte contre une loi qui a été mise en place par le gouvernement Harper. Mais moi, je crois que, puis je pense qu'on est beaucoup à penser ça, que la lutte va plus loin qu'une simple loi, c'est-à-dire que même si on réussit à battre cette loi-là, la politique d'assimilation qui perdure depuis 400 ans est encore bien réelle. Donc, c'est pas une loi la problématique. La problématique, c'est la colonisation, c'est l'assimilation des Premières Nations par le biais de développement économique, éducatif et toutes les séries de mesures pour enlever les pouvoirs aux Premières Nations. Je pense que l'idée d'Idol No More est bien pour réunir les gens, les amener à avoir une conscience de la lutte, mais que le réel gain pour tout peuple colonisé est d'entamer une décolonisation.
Beaucoup de monde ont été critiques par rapport au lien entre Idol No More, puis les conseils de bande et l'Assemblée des Premières Nations. Qu'est-ce que tu en penses?
Ben moi, je crois que les conseils de bande, c'est clairement une structure qui a été créée pour remplacer les surintendants, ça c'est clair. Puis, tant aussi longtemps qu'on va fonctionner avec des gens qui sont sous une structure qui est faite pour encourager l'assimilation, on ne pourra pas vouloir avoir une indépendance. Traditionnellement, on avait des façons de fonctionner qui fonctionnaient depuis 12 000 ans. Donc, personnellement, je pense qu'on est beaucoup à croire que les conseils de bande sont un moyen pour justement nous contrôler et accentuer l'assimilation. Et en plus, on voit dans toutes les communautés ou presque que les conseils de bande sont de mèche avec les gouvernements et beaucoup de gens politiques sont là pour s'enrichir. C'est-à-dire qu'on peut prendre un exemple. En fait, là, ce qui se passe dans les conseils de bande, c'est que dans les communautés, comme mettons au Québec, on a 4 paliers de gouvernement, provincial, fédéral, municipal, puis commission scolaire. Tandis que dans les communautés, t'as le gouvernement qui donne un certain montant, et c'est le conseil de bande, sa méga structure qui contrôle où va aller l'argent et comment l'investir et tout ça. Puis c'est des gens qui contrôlent ça, qui font extrêmement de l'argent. C'est-à-dire, on voit des salaires parfois dépassant 100 000 $, pas d'impôts. Quand ta communauté, il y a des gens qui sont sous le seuil de la pauvreté, qui sont dans des conditions assez extrêmes de pauvreté. Donc, un peu à l'image de la politique canadienne ou québécoise ou toutes ces politiques colonialistes, les conseils de banque vont dans la même direction que ça. Puis, ils sont pas du tout à l'écoute de leur population. C'est dans le sens que dans nos communautés, on a tout le temps été un principe de communauté. Donc, on peut prendre des décisions ensemble. Tout le monde le sait, mais on n'est toujours pas consulté. Puis, c'est ça.
Qu'est-ce que ça dit, toi, la rencontre entre Stephen Harper et les chefs, les soi-disant chefs autochtones?
Ben, c'est Harper qui a choisi des chefs pour négocier avec, pour calmer un peu le jeu. Mais ce qui va probablement arriver, dans ma vision à moi, ça va être que le gouvernement va laisser pourrir le problème comme ça. Il y a sûrement des gens qui vont perdre patience, vont poser des actes plus intenses. Là, ils vont utiliser ça pour faire la division du mouvement. Puis on verra qu'est-ce qui va arriver après, si on va rester unis ou si on va pas l'être. Mais c'est ce que je pressens. Puis les chefs, quand comme la PNQL, ils vont négocier avec le gouvernement Harper, ils donnent une raison justement d'aller vers cette direction-là, c'est-à-dire que oui, ils veulent négocier, même si le cri d'unité avait dit de boycotter cette assemblée-là, les gens ont été pour un intérêt personnel quand on parle d'autonomie, des territoires et tout ça. Je pense que une décolonisation ne va pas de pair avec une négociation avec le gouvernement. Une décolonisation va de pair avec une prise en charge du peuple de nos façons de fonctionner, puis l'exiger, non le négocier.
Tu parlais de l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador.
Ouais, la PNQL avec Justin Picard. C'est très, très mitigé. Ça amène dans le milieu autochtone. Il y a beaucoup de gens qui sont contre cette façon de fonctionner-là parce que c'est des gens qui vont s'asseoir avec les big shots, qui n'ont aucune façon de faire, qu'on pourrait dire traditionnelle. C'est une structure gouvernementale créée pour un peu discuter avec des big shots autochtones, avec des big shots canadiens, pour essayer de faire comme s'il y avait une bonne entente. Mais dans le fond, ils ne parlent même pas d'égal à égal. Puis quand ils continuent à perdurer dans une relation de non-égalité, ils sont juste des marionnettes, dans le fond, parce que ils ont aucun pouvoir décisionnel. C'est-à-dire que nos nations, on serait censé avoir autant de pouvoir que le gouvernement, quand il nous parle, devrait nous parler d'égal à égal. Mais c'est ça l'assimilation, c'est ça la colonisation. On parle toujours comme des gens inférieurs au niveau gouvernemental. Puis ces gens-là qui restent dans ces structures-là ne font qu'encourager ce système de domination-là qui est néfaste à long terme.
Comment tu sens le support des non-autochtones et comment tu entrevois la meilleure façon de s'impliquer en tant que non-autochtone dans ces combats-là?
J'aime bien ce que je vois du support non-autochtone. C'est sûr qu'il y a certains débats qu'il y a toujours eu par rapport à les moyens d'action puis tout ça. Mais je pense que l'implication non-autochtone doit se faire en soutien. C'est-à-dire que souvent, on voit beaucoup de... Les anarchistes veulent beaucoup s'impliquer, d'autres gros groupes aussi, mais il faut comprendre que cette lutte-là, c'est une lutte autochtone, fait que le but, c'est de soutenir la lutte, peu importe où elle va, puis d'être capable d'aller au même niveau que cette lutte-là. Mais c'est clairement les Autochtones qui doivent prendre les devants de cette lutte-là.
Il y a des Autochtones qui disent qu'une des choses qui est aussi importante pour nous en tant que non-Autochtones, c'est de ne pas supporter justement les conseils de banque et l'Assemblée des Premières Nations. Parce qu'il y a des gens qui ont tendance à suivre le flot du spectacle, des manifestations, tout ça, puis à appuyer ça sans regard critique, sans distance critique. Qu'est-ce que tu en penses?
Mais c'est clair que quand on commence à parler d'un chef qui vient puis qu'il commence à parler de la tradition puis tout ça, les gens sont souvent impressionnés par rapport à sa stature. Puis faut avoir un regard critique pour s'informer sur qu'est-ce que c'est qu'un conseil de bande puis avoir les deux côtés de la médaille pour pouvoir faire justement une décision critique parce que c'est des choses qui sont assez complexes. Puis je pense que l'important, c'est d'avoir un regard critique. C'est pas juste de quand tu as un mot traditionnel dans ton conseil, que c'est nécessairement quelque chose de supérieur ou de quelque chose de mythique, spirituel. Il faut avoir un regard critique.
Comment tu vois la loi C-45?
Mais la loi C-45, pour moi, c'est une aberration. Là. Il y a plusieurs volets dans la loi, elle est assez épaisse, mais si on regarde qu'est-ce qui va arriver avec le droit d'avoir des terres sur les réserves autochtones, c'est un peu la phase finale de l'assimilation, c'est-à-dire que même dans nos réserves, qui est pas quelque chose que je considère bon, mais qui est quand même quelque chose qu'on peut garder, puis qu'on peut vivre notre culture dedans, puis se protéger entre nous, décider comment on développe. Mais si on laisse la porte ouverte aux entreprises de venir s'installer dans nos réserves, c'est comme de dire qu'on donne le plein pouvoir du développement économique, du développement tout court, aux non-autochtones, aux corporations, aux big boss. Puis ça, c'est vraiment néfaste. Au niveau de la protection du territoire, c'est dégoûtant. On a toujours été dans une tradition que le territoire était une importance capitale pour nous. On a vécu pendant des milliers d'années ici sans avoir un impact. Là, on est dans une politique d'assimilation. On est conquis depuis 400 ans. Puis si on regarde les dégâts qui ont été faits depuis 400 ans, c'est complètement aberrant que ça puisse continuer. Là, c'est complètement néfaste. Quand on parle de déprotéger presque tous les lacs et rivières, moi, chez moi, j'ai une rivière qu'on a depuis toujours. Puis j'ai pas l'intention de les laisser jamais toucher ma rivière. J'ai même l'intention de les laisser faire une mine sur mon territoire de chasse. Ça, c'est clair dans ma tête. Mais d'après moi, les autres autochtones vont aller dans cette direction-là aussi.
Par rapport à ça, je sais pas si tu as envie d'en parler, mais il y a les Innu de Mastoyash, dont tu viens, qui sont en opposition à un barrage. Est-ce que tu as envie de nous parler un peu plus de ça?
Bien, ça encore, c'est une histoire assez intéressante que ça s'est fait un peu en dessous de la couverte, que le conseil de bande, avec plusieurs alliés, ont décidé de faire un développement économique sur cette chute-là, sans nécessairement demander l'avis à personne dans la communauté. Là, il y a eu un mouvement qui a été commencé en dehors de la communauté, puis qui ont été parlé avec les gens de la communauté, puis un mouvement qui s'est commencé aussi dans la communauté, qui a eu des pétitions signées pour justement annuler ce barrage-là, puis tout ça. Fait que c'est un exemple de lutte, c'est-à-dire que ce barrage-là est un point de départ de lutte. Parce que si on regarde partout au Québec, il y a les Innu pour le barrage de Vajalbert, il y a les Innu pour la rivière Romaine, il y a les Atikamekw qui se sont battus cette année pour les Coupes à Blanc, puis après ça, il y a les Algonquins à Poigan qui se sont battus aussi cette année. Fait que il y a comme un ras-le-bol général de dire que ça va tout passer. Les projets, ils passeront pas tous. On a le droit aussi de décider. Puis c'est pas vrai que c'est juste des gens qui font de l'argent sur ces projets-là qui vont décider pour nous qu'est-ce qui se passe sur notre territoire.
Est-ce que c'est important aussi pour tout le monde, dans le fond, de comprendre que les communautés sont pas homogènes, qu'il y a des divisions internes comme il y en a chez les Blancs aussi, puis qu'il y a des gens qui visent plus à récupérer ça d'un point de vue capitaliste pour faire de l'argent avec leur communauté, alors qu'il y a des gens dans la communauté qui s'opposent à ces projets-là pour la défense autant de l'environnement que de leur tradition.
Ça va toujours en avoir des divisions comme ça. C'est sûr qu'il y a des gens qui ont plus des regards capitalistes. On voit la même chose, c'est-à-dire l'assimilation se fait à vitesse grand V dans nos communautés. Mais je pense que dans la lutte, il y a beaucoup de discussions qui vont avoir lieu, puis il y a beaucoup de choses qui vont changer. Puis il reste à voir si notre culture va perdurer ou bien si elle va juste simplement disparaître. Mais moi, je dirais pas que j'ai espoir, mais pour les prochaines générations, la seule chose que je peux faire pour qu'il y ait un avenir pour eux, c'est de lutter. Puis je pense que chez les Autochtones, on a beaucoup de conscience de ça. Fait que oui, il y a des divisions, mais c'est pas ça qu'il faut qu'ils nous empêchent de lutter, je pense.
Puis là, on parlait du contingent anticolonialiste. Tu peux nous en parler un peu plus? Puis ça a origine de où?
Ben c'est une idée qu'on a eue ici, puis justement, en s'inspirant un peu des contingents anticolonialistes qui est un peu partout aux États-Unis, mettons Columbus Day, puis tout ça, puis à toutes les luttes anticolonialistes qui est partout dans le monde, les Apatistes, les Mapuches, je pense que il faut qu'on t'amène ce message-là aussi. Je pense que le message n'est pas assez répandu dans le mouvement Idle No More en ce moment. Fait que je pense que d'aller mettre une présence, aller semer des idées, aller se montrer que notre position anticolonialiste va faire des petits un peu partout aussi. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a déjà des groupes qui sont anticolonialistes, on pense à la War Society ou d'autres groupes comme ça qui ont des positions assez tranchées par rapport à ça aussi. Puis je pense que c'est important de mettre ça de l'avant aussi, mais c'est primordial.
Alors, si les gens veulent lire plus sur la décolonisation, qu'est-ce que tu conseilles?
Il y a les publications Warrior sur Internet, Warrior Publication, en fait. Puis ça, c'est quand même très intéressant. Sinon, de s'inspirer un peu des luttes qu'il y a un peu partout, je pense que ça peut être intéressant. C'est-à-dire que la décolonisation, il y en a eu depuis longtemps, partout. C'est important de voir aussi qu'est-ce qui se passe ailleurs dans le monde. Peut-être qu'au Canada, on n'a peut-être pas été encore aussi loin dans cette idée-là, mais cette idée-là, elle existe puis elle est nécessaire.
Puis, en tant qu'Inou, est-ce qu'il y a des références que tu pourrais envoyer les gens pour lire sur l'histoire?
De nos communautés, il y a un grand livre qui existe sur l'histoire des Pequot Communes Notes, mais qui est quand même difficile à trouver. Les recueils sont assez durs à trouver. Il y a Serge Bouchard qui fait quand même des choses intéressantes, mais disons qu'il y a un manque d'anthropologie autochtone faite par des autochtones. C'est beaucoup évalué par d'autres personnes. La meilleure façon de s'informer, c'est d'aller visiter nos communautés puis de venir nous parler. On vient d'une tradition orale, donc il y a quelque chose dans la discussion qui apporte beaucoup plus que aller lire un livre sur une culture. Une culture, ça s'apprend, ça se vit avec des contacts humains. Donc, c'est d'aller lutter avec nous, d'aller nous rencontrer.
C'est une bonne façon de vous rencontrer, mais comment? Parce qu'on peut pas faire ça n'importe comment. Parce qu'il y a eu des visites qui ont coûté cher à l'histoire des peuples autochtones.
Ouais, je pense que c'est d'attendre les chances. Les chances vont venir. Si les gens sont intéressés à lutter avec les Autochtones, c'est d'y aller de manière humble. Puis les gens vont le sentir, ça, puis... On n'a jamais mis personne dehors de nos luttes, mais il faut y aller avec une idée humble, puis le moment est opportun, justement.
Merci.
De rien. Puis aussi, je voudrais mettre l'accent aussi sur deux personnes qui font une grève de la faim, que j'admire beaucoup, Chanette puis Annick Jolland. Je pense que, en tout cas, pour avoir connu Chanette, je trouve que c'est une femme qui est incroyable, qui a vraiment l'esprit de la lutte, comme nous, on devrait s'inspirer. Puis elles sont depuis 14 jours en grève de la faim en ce moment. L'idée de créer un contingent anticolonialiste, l'idée de pousser la lutte, c'est un peu à ça aussi, parce que je sais que là-bas, il y a des gens qui sont en train de donner leur vie, puis ça va plus loin qu'un mouvement spontané, qu'on est heureux de se rencontrer. Non, il y a des gens qui luttent, puis ils sont prêts à donner leur vie, fait qu'on se doit de les appuyer jusqu'au bout, peu importe.
Dans quel sens politique qu'ils font leur grève de faim? Parce qu'il y a toutes sortes de grèves de faim en ce moment qui sont pas nécessairement reliées aux mêmes causes.
Mais moi, connaissant Chanette, je sais qu'elle doit le faire en soutien avec la chef Spence, mais elle fait en soutien aussi par rapport à toute la lutte autochtone, parce que je pense qu'elle a une idée assez développée aussi de qu'est-ce que la lutte autochtone, puis où est-ce qu'elle est prête à aller pour ça, puis pourquoi elle est prête à aller pour ça. Je parle de décolonisation, puis de ça, mais pourquoi ça? C'est parce qu'on veut entrevoir un avenir pour nos petits-enfants, nos enfants, puis on veut pas que notre territoire soit saccagé, on veut pouvoir encore vivre notre territoire. Tu sais, moi, mon oncle qui me disait que quand elle est dans la forêt c'était désert, que c'était rendu désert, tu sais, puis c'est vrai, ça, c'est quand des aînés te disent: ah, ben, cette plante-là, on n'a pas de nom en Inou pour cette plante-là. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas là avant. Tu te dis, ouais, mais pourquoi il n'était pas là? Ben, c'est le réchauffement climatique. On les voit, les changements dans le territoire. On les voit que ça achève. Puis, au-delà que, vu que les gens, ils sont pas beaucoup dans le territoire, ils s'en rendent pas compte. Mais nous, on s'en rend compte. Quand on disait traditionnellement que chaque action qu'on posait, on posait en conséquence des prochaines générations. Mais comme je disais tantôt, moi, pour les prochaines générations, la seule chose qui nous reste, c'est de lutter, justement, parce que notre Nutassinan est en train de se faire voler, là.
Ouais, bah, la lutte, elle continue. En tout cas, la chef Spence, parce que c'est une femme et c'est des femmes qui sont à la tête de cette lutte Idle No More, est toujours en grève de la faim. Le mouvement, en tout cas, une partie des représentants de ce mouvement a été reçue par le premier ministre canadien Stephen Harper le 16 janvier dernier. Il n'y a pas eu de suite, hein, parce que la discussion est pour l'instant un peu au point mort. Mais le mouvement Idle No More précise que la lutte est loin d'être terminée et continue. Et en fait, ils veulent à gagner et à voir quand même que le projet de loi sur le développement et sur l'emploi recule et en tout cas n'oublie pas les Premières Nations. Et ce qu'il faut dire, c'est rappeler en tout cas que des grandes luttes, il y en a eu au Canada l'an dernier et qu'ils ont gagné, donc que la lutte est possible. Au départ, les étudiants québécois qui étaient en grève étaient vraiment minoritaires. L'an dernier, ils ont fini par faire tomber le gouvernement québécois et par faire reculer le gouvernement sur la loi contre la hausse des droits de scolarité. D'ailleurs, là, on va passer un petit peu de musique. Alors, c'est du rap algonquin, mais c'est un morceau fait avec les Locolocas qui étaient l'an dernier en lutte contre les droits de scolarité, donc un peu de lutte étudiants et autochtones.
Dans une ville appelée Kabak, lieu de débarquement, mes ancêtres ont fait leur pack-sack pacifiquement sur l'année canard, en route au nord du Canada. Sambia Locolocas, il était temps que l'union se fasse. Qu'on remonte la vraie histoire pour qu'on puisse y faire face. On veut mettre un pont entre les nations, confondre la culture, ignorer les préjugés, laisser parler la nature. La barrière entre les peuples, on veut plus la casser. On en a plus cassé, on est placé pour parler. On remonte le temps dans le pantalon de Christophe Colomb qui découvre l'Amérique et tous ces peuples qui y habitent. On était pacifiques. Et encore même aujourd'hui, un homme blanc sur l'Atlantique qui rêvait de faire son pays. On fume le calumet de paix sans rancune. On est capable de rester vrai même si on porte une plume. L'union de nations freine l'ignorance, pousse les connaissances avec un peu de reconnaissance. Mon histoire et la tienne, ça fait deux. Je fais partie de deux peuples, donc je finirai comme l'un d'eux.
Proche la grosse à la colline, on débarque en rapace que cette année. On a décidé de se mixer parce qu'on a redissé l'alliance en Nouvelle-France entre autochtones et francophones.
Papa, oui, tu es le pays bas, et j'ai Mashka, Ouziak.
Mashka, Ouziak.
Yao, Yago, Ouziak.
Yao, Yago, Ouziak.
Et qui donne
son, c'est le bac. De l'Europe à l'Amérique, j'ai traversé l'Atlantique. À cette époque épique, au pays du porc épic, la maladie du scorbut, score est droit au but. Et c'est aux Premières Nations que je dois ma guérison. La quête cano, boucan tisane et tampagane. L'authentique autochtone enseigne à haut profane. La science de la savane, ça se soucie qu'en filigrane. La soutane mégalomane allait lui casser le crâne. Pour les Amérindiens en Amérique, il y a deux choix. Soit on les abat comme aux États, ou bien soit qu'on les réserve comme au Canada. Mes réserves ou abat, le problème demeure le même. Car tombent une à une les quilles de leurs emblèmes. Ah, les visages pâles peuvent bien devenir blêmes. Désolé pour le passé, à présent qu'est-ce qu'on fait?
Allume le calume, mais qu'on fume pour la grande paix.
Hoche la grosse à la colline, on débarque en rapace que cette année. On a décidé de se mixer parce qu'on a retissé l'alliance en Nouvelle-France entre autochtones et francophones.
Je m'excuse si je t'excise, tu meurs pas. Ou si oui, ta mort est exquise. Pas de taxes, on te plume pas. On te préserve dans l'alcool, on te fume dans le tabac. J'appelle ça de la taxidermie.
La quoi?
Parle-en à René Dupuis-Morancy. Chris, l'ignorance crasse me laisse un goût rancy. Vite, faut que je me rince sous les chutes, Montmorency. Oui, maman, oui, je me souviens que nous fûmes les premiers touristes dans ce pays qui payent à sa survie à rendre ses esprits qui ont le souffle court et nous les cœurs s'épris. Trop pris, tellement pris qu'ils sont farma pris. Ah ah, le karma crie, Algonquin, Innu, Atikamek du Québec. Si on allumait le calumet, qu'on fumait pour la grande paix.
La grosse à la colline, on débarque en rapace que cette année. On a décidé de se mixer parce qu'on a retissé l'alliance en Nouvelle-France entre autochtones et francophones. La grosse à la colline, on débarque en rapace que cette année. On a décidé de se mixer parce qu'on a retissé l'alliance en Nouvelle-France entre autochtones et francophones.
Mama, oui, tu es le pays bas, et j'ai Mashka, Ouziak.
Mashka, Ouziak.
Yao, Yago, Ouziak.
Yao, Yago, Ouziak.
Mashka, Ouziak. Yao, Yago, Ouziak.
sang, on scelle le pacte.
Vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 à l'écoute des oreilles loin du front. Et là, on écoutait La paix des braves de Samian et les Locolocas.